L'évangile de Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14, les versets 12 à 25. Marc, chapitre 14, versets 12 à 25. Au nom de Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour le repas de la Pâque, les disciples de Jésus lui demandèrent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Alors Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville et vous rencontrez un homme qui porte une cruche d'eau, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître demande « Où est ma chambre, celle où je mangerai avec mes disciples le repas de la Pâque ?» Et il vous montrera en haut de la maison une grande chambre toute prête, avec les meubles nécessaires, c'est là que vous nous préparerez le repas. » Les disciples partirent et allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Et ils préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les 12 disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Les disciples devinrent tout tristes et ils se mirent à lui demander l'un après l'autre. « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus leur répondit, « C'est l'un d'entre vous, les 12, celui qui trempe avec moi son pain dans le plat. Certes, le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet, mais quel malheur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. » Mais pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples et il leur dit « Prenez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Encore une fois, je me suis permis de ratisser large au niveau du découpage textuel, car ce qui était prévu dans le lectionnaire aujourd'hui, le lectionnaire œcuménique que nous suivons, c'était plutôt Marc chapitre 14, versets 12 à 16, et ensuite ça saute au verset 22 à 26. Tel était le découpage prévu. Mais en lisant, j'ai constaté que le lectionnaire œcuménique a délibérément omis la partie où Jésus avait annoncé que dans le repas, que parmi les 12, il y a un traître. Et ça m'a intrigué. Pourquoi ils ont élevé cela? Est-ce que ça gêne? Est-ce que ça dérange? Pourquoi ne pas le garder? Alors, je me suis permis de garder cette partie-là. Et d'ailleurs, la mention de cette partie est très importante pour montrer dans quel contexte et dans quel cadre cette première sainte scène a été instituée. C'est très important. Dans quel contexte? Pas seulement l'enseignement, nous connaissons ce que ça veut dire la Sainte Cène, qu'est-ce que Dieu nous donne dans la Sainte Cène, mais aussi je pense qu'il est très important de voir le cadre, comment ce sacrement a été institué la première fois par le Seigneur lui-même. Il est probable, je pense, que le lectionnaire voudrait, je mets au conditionnel, mettre en lumière le texte fondateur liturgique du sacrement de l'Eucharistie, puisque le lectionnaire œcuménique a été choisi par l'Église catholique, bien sûr. Donc peut-être qu'ils veulent mettre l'accent sur la liturgie, l'Eucharistie, puisque c'est un lectionnaire œcuménique, comme je l'ai dit. Je ne sais pas quelle raison. Mais de mon côté, je me suis dit, il est encore plus bénéfique de garder l'entièreté du texte pour nous donner une réponse à la question que j'ai posée pendant le culte et qui revient sans cesse dans les débats et les discussions des personnes. Est-ce que j'ai le droit de venir à la Sainte-Seine ou pas? Quel type de personne qui a le droit de prendre la Sainte-Seine? Voilà la problématique pour moi qui se dégage à partir de cette partie que le lectionnaire a enlevée. Est-ce un repas réservé qu'aux saints, à un club restreint, à un cercle extrêmement privé? Et puisque c'est un texte fondateur, si vous avez remarqué, on redit tous les dimanches ce que Jésus dit ici lors de la Sainte-Seine. Donc c'est un texte fondateur, tous les éléments, chaque élément dans ce texte, nous avons besoin de voir une idée plus précise sur ce sacrement ici. Et donc, c'est à nous de revenir à la source pour construire. On ne va pas dire quel est le règlement de l'Église, de l'EPUB, quel est le règlement de l'Église protestante pour ceux qui ont le droit de venir à la Sainte-Seine. Quel est le cadre que le Christ a institué pour ce sacrement? Pour construire un enseignement et aussi une pratique juste qui en découle. Dans un premier temps, Marc nous peint un Jésus qui va clôturer officiellement l'ancienne alliance parce qu'il était là lors de la Pâque juive. Donc là, il est en train de clôturer pour dire voilà, l'ancienne alliance se termine aujourd'hui, là pendant la Sainte-Seine. Et il ouvre, il inaugure la nouvelle alliance qui est dit au verset 24. Il parle du sang de l'alliance. Et l'ancienne alliance, on l'a vu tout à l'heure dans Exode 24, quand Moïse a répandu le sang sur les Israélites. Donc on peut dire que l'ère chrétienne a commencé, ça c'est ma lecture, l'ère chrétienne a commencé à partir de l'institution du sacrement, le jeudi saint, puisque c'est à partir de la Sainte-Seine que Jésus a inauguré la nouvelle alliance qui est bâtie sur lui. Donc c'est très important, c'est, vous imaginez, le christianisme a débuté par la Sainte-Seine. Je trouve que c'est quelque chose de très fort. Donc ce qu'il faut retenir dans ce contexte, en tenant compte du déroulement de la scène, ce moment de repas est un moment de calme et de fête, puisque c'était la fête juive, avant que les hostilités et la tempête s'abattront sur les disciples et surtout Jésus. Voilà ce qui se passe. Un moment de joie, un moment de calme, un calme avant la tempête. Puisque vous savez tous que juste après, Jésus a été emmené de force par les Romains. Je dirais un temps de pause, de parenthèse nécessaire avant de faire face à la violence et la brutalité du monde. C'est l'impression que j'ai. Et là, je profite de cette réflexion pour sensibiliser les frères et sœurs de Jésus aujourd'hui, de profiter de ce moment de pause. Pour moi, le sacrement, c'est un moment de pause, un moment de parenthèse dans notre vie, où on sort du contexte, on entre dans une dimension céleste. Et nous avons besoin de ce moment de parenthèse, je pense, pour faire face au monde qui nous fait, le monde qui ne nous fait pas de cadeaux. Or, à la table du Seigneur, c'est un don inépuisable qu'il nous donne, sans condition. Donc, Dieu nous appelle à la Sainte Cène, Dieu nous appelle à sa table pour avoir assez de force et pour faire face à ce monde qui va peut-être même se déchaîner sur vous, comme Jésus l'a vécu et ses disciples. Et pourtant, malheureusement, pas mal de personnes snobent, j'utilise ce verbe, ils snobent encore ce moment privilégié. S'ils savaient ce qu'ils rataient, ils n'oseront même pas imaginer une minute de ne pas profiter de cet instant que je dirais magique, et je mets entre guillemets, magique, pas dans le sens de magie, mais de magnifique. Qu'est-ce qui se passe pendant la Sainte Cène? Pendant la Sainte Cène, le ciel et la terre est relié. Nous sommes en communion avec le ciel. Est-ce que vous avez lu la dernière partie? Je boirai plus désormais de ce fruit de la vigne quand je serai dans mon royaume. Donc à chaque fois que vous prenez la Sainte Cène, vous prenez le repas avec le Seigneur dans le ciel et ici-bas. C'est un moment magique. Pourquoi ne pas en profiter, chers amis? Je ne comprends pas. Je comparerai cela à nos besoins de prendre un moment de relax, de congé, ou une sorte de parenthèse au milieu de nos courses quotidiennes, métro, boulot, dodo. C'est-à-dire que c'est un besoin et non une obligation. Sommes-nous conscients de ce don inouï que Dieu nous donne? Autre chose, j'ai bien aimé la lecture qu'avait un théologien sur ce texte, un grand théologien suisse qui s'appelle Daniel Marguerat, en mettant l'accent que Jésus, disait-il, a transformé ce moment grave, plein d'émotions, en instant de fête. Parce qu'il sait très bien qu'il inaugure sa mort là. Il est en train d'inaugurer sa mort parce qu'il va mourir dans quelques heures. Donc, qui peut faire une fête? Qui va fêter sa mort? Personne. N'est-ce pas? Si vous savez que vous allez mourir dans 2 heures, vous n'allez pas faire la fête. Au contraire, vous allez inviter tout le monde, pleurer avec moi, voilà mon testament, dites à celui-ci, à Dieu. Mais Jésus, il inaugure sa mort. Il le transforme en fête. Et ça m'a touché, cette exégèse. Je dis, mais c'est vrai. Jésus qui institue la Sainte Cène en faisant des gestes bien précises et qui vont être repris par toutes les églises plus tard, nous y compris, ce moment de fête, ce que nous voyons dans la liturgie de la Sainte Cène. Voici les mots que Marguerat utilise dans son livre. Jésus célèbre sa mort comme un événement de fête. Pourquoi est-ce une fête? Car à cet instant-là, qu'il offre le pardon et la vie éternelle. C'est pour cela. Jean chapitre 6, versets 54 à 55. Je vais vous lire ce passage. Jean chapitre 6, versets 54 et 55. Où il est dit, au nom de Jésus, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternel, et je le ramènerai de la mort à la vie au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Amen. Alors, si c'est un moment de fête, si c'est une nouvelle ère que Jésus ouvre devant nous, est-ce que cette fête n'est pas donnée à tout le monde? Telle est la question que je me suis posée au tout début. Alors, ce qui est frappant dans le texte, Jésus a partagé son repas, qui est considéré la partie la plus sainte, si on peut le dire, dans une liturgie. Il le partage aussi avec Judas. Tiens, tiens, celui qui va le trahir, Judas partage la Sainte Cène avec son maître. Et encore une nouvelle fois, Marguerat avait dit dans sa lecture,
Jésus aurait pu mettre Judas, toi, dehors, tu ne fais pas partie. Parce que tu vas me trahir d'ici quelques mois.
Si, il lui a donné même le premier bout. Vous imaginez, il était à la table et c'est lui qui a reçu le pain en premier.
Pas Jean, celui qui était toujours tout près. Pas Pierre,
Judas.
C'est pas par hasard tout ça. Il aurait pu dire à Judas, pousse-toi d'abord, tu seras en dernier. Mais il est le premier à recevoir le pain et le vin. Et pourtant, il lui a donné avec joie et amour.
Alors pour répondre à la question principale que j'ai posée, qui a le droit de venir à la table du Seigneur?
Sans hésiter, je vous le dis, tout le monde.
Même les traîtres, ils peuvent venir. Même les plus ignobles, même le fils de la perdition, c'est écrit ici dans le texte.
La table est ouverte à ces gens-là.
La table du Seigneur est la table de tout le monde, où on peut y voir tout type de personnes. J'avais déjà parlé ça un jour. Autour de cette table, il y a pas mal d'individus. Chacun a son histoire. Chacun traîne ses casseroles avec. Chacun a ses problèmes. Chacun a sa personnalité. Mais nous sommes tous réunis autour de la table. Et c'est ça qui est le miracle en Jésus. C'est la seule personne qui arrive à réunir tout le monde autour de sa table. Dans les repas que vous êtes invités dans le monde, soit si vous faites partie du VIP, ou faites partie d'un club, où vous avez les conditions nécessaires requises, vous avez le droit, et on va encore vous fouiller, où est votre invitation. Mais la table du Seigneur est ouverte à tout le monde. Cela signifie que la communauté qui se retrouve autour de la table est une communauté faillible. Voilà. Ce n'est pas une communauté infaillible qui est autour de la table. Ce n'est pas une communauté sainte dans le sens parfait. C'est une communauté faible, mais pardonnée, comme dit notre confession de foi. C'est une communauté fragile, mais qui a été consolée par son maître. Donc la table est donnée pour celui qui a besoin d'un réconfort. Celui qui tombe et qui doit être relevé, et c'est à la table du Seigneur qu'on le relève. Donc la table du Seigneur n'est pas la table du mérite pour celui qui est le plus bon, le plus parfait. Au contraire, celui qui se croit méritant venant à la table, il sera condamné à l'avance. Et d'ailleurs, les gestes que Jésus avait faits tout au long du repas mettent en exergue que c'est un don, mais pas une sorte de mérite. Un don de vie. Jésus qui prend le pain, qu'il partage le pain et le vin, et partage son corps et son sang. Et cette idée de don est accentuée dans le verbe utilisé au verset 22. Le verset 22 dit... Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit. Le verbe rompre ici, c'est briser, mise en miettes de le pain et le partager. Et ça montre déjà ce que Jésus va vivre. Son corps a été brisé, son corps a été rompu, son corps a été réduit en miettes pour que nous ayons la vie éternelle. Et ce qui est magnifique derrière cette image, un corps rompu, un corps brisé, un corps mis en miettes, mais qui te procure la vie. Et telle sera toujours la vie de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, elle sera toujours faible. L'Église de Jésus-Christ sera toujours brisée, traversée par les doutes, par la maladie, par les chutes, par les imperfections. L'Église de Jésus-Christ, rompue à l'apparence, mais grâce à son brisement qu'elle va apporter la vie pour toute l'humanité. Amen.